la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Quels sont les points communs entre Henrietta Leavitt, Rosalind Franklin et Marie Curie? Vous vous en doutez, ce sont trois immenses femmes scientifiques, précurseurs en leur temps, et qui ont dû en plus affronter de nombreux préjugés pour pouvoir être reconnues comme scientifiques par la société de l'époque. L'égalité des genres est une des priorités de l'UNESCO et l'accompagnement des jeunes filles, leur formation et leur pleine aptitude à faire entendre leurs idées sont considérés comme des leviers de développement et de paix. Les grands défis du développement durable nous imposent également de former un maximum de talents parmi les nouvelles générations. C'est pourquoi il est impératif d'augmenter le nombre de femmes actives dans les domaines scientifiques. La diversité dans la recherche élargit le bassin de chercheurs talentueux, apportant ainsi de nouvelles perspectives, du talent et de la créativité. La Journée internationale des femmes et des filles de science sera donc célébrée chaque année le 11 janvier. Son but est de promouvoir l'accès et la participation des femmes et des filles à la science. Car les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et leur participation doit être renforcée. Les droits des femmes sont des droits humains. Ces droits comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. Si sur le papier cela semble évident, la réalité nous montre une toute autre version. Violence conjugale, manque de reconnaissance, salaire 23% plus bas en moyenne, manque de respect, harcèlement, les discriminations envers les femmes sont toujours d'actualité. Le sexisme envers les femmes est la première cause d'inégalité. L'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que chacun peut se prévaloir de tous les droits sans distinction aucune. Pourtant, aux quatre coins du monde, beaucoup de femmes et de filles sont encore victimes de discriminations liées au genre. Les inégalités entre les sous-genres, entre les genres sous-tendent de nombreux problèmes qui touchent les femmes de manière disproportionnée. Or, les sociétés s'améliorent au bénéfice de tous leurs membres lorsque les droits des femmes sont respectés et pris au sérieux. Et maintenant, le sommaire. Au sommaire de cette matinale, nous parlerons des procédures Bayon contre la presse avec Sophie Lemaître qui sera interviewée par Farah. Dans le Zoom, nous recevrons Emmanuelle Bompa, qui est la présidente de l'Association des femmes et des droits, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, à la sensibilisation et l'information autour des violences faites aux femmes. Le Zoom sera réalisé par Betty. Le Flash Info sera réalisé par Raphaël, la chronique d'actu Francesca et la chronique libre Lia. Et tout de suite,
la matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, on reçoit Sophie Lemaître pour parler des procédures Bayon contre la presse. La France est le troisième pays européen avec le plus de procédures Bayon et c'est Farah qui l'interview.
Sophie Lemaître, vous êtes docteur en droit, chercheuse et membre associée de l'Institut Ouest Droit et Europe à Rennes. Vous êtes un spécialiste de la question de la... Excusez-moi, je reprends. Sophie Lemaître, bonsoir. Vous êtes docteur en droit, chercheuse et membre associée de l'Institut Ouest Droit et Europe à Rennes. Vous êtes une spécialiste de la question de la corruption et vous êtes également l'autrice de l'essai « Réduire au silence comment le droit est perverti pour bâillonner des médias et des ONG », un essai publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Et vous avez d'ailleurs reçu le prix Renaud Van Rumbeek en partenariat avec le Nouvel Obs. Bonsoir Sophie Lemaître.
Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir ce soir.
Mais avec plaisir. Alors, ce soir, c'est bien de cela dont on va parler, de la manière dont le droit peut taire la parole des journalistes, des médias indépendants, des ONG, des activistes. Donc, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on commence par débroussailler les termes juridiques. Alors, une poursuite Bayon, qu'est-ce que c'est exactement ?
Une poursuite Bayon, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de définition universelle, en fait. Il n'y a pas de définition juridique en droit, il n'y a pas de loi ou de mention dans le code qui parle de poursuite Bayon. Donc, la poursuite Bayon, en fait, c'est... ça désigne une procédure judiciaire qui a en fait l'apparence d'une procédure classique, mais en fait dont l'objectif n'est pas d'obtenir réparation à la suite d'une atteinte à la réputation ou à la suite d'un dommage, mais en fait a pour objectif d'intimider, de menacer et de réduire au silence en fait les journalistes, les associations, les chercheurs, les lanceurs d'alerte qui s'expriment sur des sujets d'intérêt public.
Mais
pour savoir si...
J'y vais. Désolée. Je précise pour les auditeurs et auditrices que nous avons Sophie Lemaître avec nous par téléphone ce soir. Donc, je vais essayer de ne pas, pas vous interrompre trop souvent. Mais je me demandais, c'est à quel moment qu'on peut être certain ou certaine qu'il s'agit d'une procédure bâillon ? Parce qu'on pourrait se dire, ben oui, la procédure, elle a du sens. À quel moment on sent que c'est... dans l'objectif de faire taire, est-ce qu'il y a des critères qui peuvent attester de cela ?
Tout à fait. Alors déjà, il faut que la procédure, la poursuite ait lieu après qu'il y ait une forme de participation publique. Par exemple, la publication d'un article où là, je suis en train de m'exprimer publiquement avec vous et donc à la suite de mon interview, je suis poursuivie. Et il faut que ce soit aussi sur une question d'intérêt public, c'est-à-dire la corruption, la santé, l'environnement, les violences sexistes et sexuelles, etc. Et puis après, on va regarder un certain nombre de critères. Donc, il ne faut pas que tous ces critères soient remplis, mais on regarde voilà, quelles sont les caractéristiques de ces procédures abusives. On va s'intéresser au déséquilibre des pouvoirs, c'est-à-dire est-ce que entre la personne qui poursuit, ça peut être une entreprise, une personnalité politique, une personnalité du milieu des affaires, et la personne qui est poursuivie, un média, un lanceur d'alerte, eh bien, quel est le déséquilibre de rapport des forces ? Est-ce qu'on a une entreprise qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires face à une association qui a un budget d'à peu près 100 000 euros ? On regarde si la plainte est dirigée contre l'individu plutôt que contre l'organisation. Donc, par exemple, poursuivre le journaliste plutôt que poursuivre le média. On regarde aussi le montant des dommages et intérêts. À titre d'exemple, Casino avait poursuivi en diffamation le média La Lettre A et demandé environ 13 millions d'euros de dommages et intérêts. Donc, on regarde aussi ce montant-là. On s'intéresse aussi à si la personne, l'organisation qui poursuit fait œuvre de manœuvre procédurale, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire en sorte de retarder le plus possible la procédure, est-ce qu'il va se retirer la veille, le jour même du procès, est-ce que en fait il va épuiser toutes les voies de recours alors qu'il sait qu'en fait la probabilité qu'il gagne est très faible, c'est-à-dire qu'en première instance il aura perdu et que très fortement en appel, il perdra, mais il va quand même aller en appel et en cour de cassation. Parce que l'objectif de ces procédures bâillons, dont je disais, c'est de dissuader, mais c'est aussi d'épuiser l'autre financièrement, parce que ça a un coût. Il faut faire appel à un avocat, il y a des frais de procédure.
D'où le rapport force au début dont vous parliez. Si
exactement.
Sur un individu ou une petite association, bah, on ne peut pas faire le poids sur une durée de procès qui est assez longue.
Tout à fait. Et puis, vous allez voir peut-être si c'est une entreprise qui va mobiliser une dizaine d'avocats qui sont extrêmement pointus dans leur domaine. Et vous, avec votre association, vous aurez un seul avocat. Donc, pareil, on voit ce déséquilibre-là. Donc, c'est vous épuiser financièrement, mais c'est aussi vous épuiser moralement, émotionnellement, parce que pendant ce temps-là, en fait, vous allez devoir passer des heures à préparer votre défense. Vous allez peut-être être mis en examen, et donc ce mot « être mis en examen » est quand même connoté très négativement. Vous n'allez pas travailler, donc vous n'allez pas mener vos enquêtes, ou vous n'allez pas accompagner, si vous êtes une association, accompagner un public vulnérable. Donc, on vous détourne, en fait, de votre mission.
Donc là, je pense à un média indépendant, Street Press, dont on parlera peut-être plus tard. Est-ce que lorsqu'il y a ces mesures bâillons, tout est en pause ? Est-ce que, par exemple, quand on a un média indépendant, est-ce qu'il est en pause ? On pourrait penser aussi à Radio Campus Paris, si ça nous arrive.
Alors, tout va dépendre de la taille du média et du nombre de personnes qui y travaillent. En tout cas, le journaliste ou les journalistes qui seront visés, eux, pendant ce temps-là, oui, ils vont mettre en pause parce que il faut qu'ils préparent leur défense, il faut qu'ils démontrent qu'ils ont effectué un travail sérieux, qu'ils avaient des éléments solides. Ils vont être entendus peut-être par la police, par un juge d'instruction. Puis ensuite, il y a l'ouverture du procès, puis peut-être qu'il y a un appel. Donc pendant tout ce temps-là, il va y avoir des rencontres avec son avocat pour préparer sa défense. Donc oui, pendant tout ce temps-là, en fait, il ne va pas pouvoir faire son travail. Et donc si on est dans un petit média où il n'y a que un, deux journalistes, c'est sûr que pendant cette période, il n'y aura pas d'informations et pas d'enquête. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est se dire, c'est pas... L'impact, il n'est pas que seulement au niveau de l'association ou du média qui est poursuivi, il est aussi à notre niveau citoyen, parce que ça veut dire que nous, on n'aura pas accès à de l'information. Si un média ne peut plus enquêter, c'est nous aussi qui n'avons pas accès à l'information et nous sommes aussi pénalisés. Et ça, c'est vraiment très important à avoir en tête.
Oui, et j'imagine qu'il y a un effet domino aussi. Si un média indépendant est touché et se voit, enfin en tout cas voit une partie de ses activités mises à l'arrêt, j'imagine qu'il y a un effet de ricochet sur d'autres médias indépendants qui n'osent plus non plus aborder certains sujets.
Tout à fait, c'est un risque et c'est aussi l'objectif de ces procédures bail. C'est d'envoyer non seulement un signal aux médias que l'on poursuit, mais aussi aux autres en leur disant attention, si vous attaquez, si vous enquêtez, si vous publiez sur ce sujet-là, vous aussi, vous risquez d'être poursuivi. Et donc, vous allez vous poser la question, est-ce que je me lance sur ce sujet-là ? Donc, c'est effectivement un problème.
Une autre question que j'avais, c'était par rapport à la localisation, entre guillemets, de la plainte. Est-ce que lorsqu'il y a procédure bâillon, c'est toujours dans le pays de l'association, du lanceur d'alerte, de l'activiste écologiste est-ce que c'est toujours dans l'endroit, je pense notamment à l'Angleterre, qui est un petit peu un endroit niche pour les procédures bâillon. Comment on peut délocaliser ces procédures ?
Dans 92% des cas, elles sont nationales, c'est-à-dire par exemple franco-françaises. Okay. Tout se passe bien sur le territoire français, mais on sait qu'au niveau européen, et cette donnée-là, elle nous vient de CASE, la coalition européenne contre les poursuites bâillon, on sait qu'à peu près 8% des procédures sont transfrontalières, c'est-à-dire qu'elles ont une dimension étrangère et où on va aller déposer plainte dans un autre pays que celui où se situe le média ou l'association. Et le Royaume-Uni, c'est effectivement une juridiction, moi je la considère comme un peu un paradis des poursuites bâillon, parce qu'elle offre un certain nombre de garanties ou un certain nombre de privilèges pour ces procédures bâillon. D'abord, ça coûte extrêmement cher d'avoir un avocat. Les honoraires, on se situe aux alentours de 1000 pounds de l'heure. Donc ça, c'est juste une heure. Donc on voit très vite que les montants peuvent monter à plusieurs centaines, millions. Exactement, et épuisé financièrement. La deuxième chose, c'est que c'est très facile de déposer plainte au Royaume-Uni. Vous n'avez pas besoin d'y vivre, ni d'y travailler, d'avoir votre entreprise qui est basée. Il vous suffit de démontrer que, en fait, l'article qui a été publié, si c'est à la suite d'un article publié par un média, que l'article est lu au Royaume-Uni. Donc, on voit là le rattachement, il est quand même très facile à montrer. Et puis ensuite, au Royaume-Uni, quand il s'agit de poursuites en diffamation, eh bien, au niveau de la charge de la preuve, c'est-à-dire démontrer que vous avez bien fait votre travail, que non, ce n'est pas de la diffamation, ça se fait en fonction de la lecture et de l'interprétation du juge. Ce qui fait que ça peut être très difficile de montrer que non, vous n'avez pas diffamé et que vous avez très bien fait votre travail. Et donc, dans de nombreux cas, en fait, les organisations, des auteurs qui ont pu écrire des livres ou bien des journalistes ont négocié avec les personnes qui les poursuivaient parce que le risque était trop grand de se retrouver financièrement complètement sous l'eau et endetté, voire de devoir fermer son média ou même la maison d'édition.
On parlait tout à l'heure de Street Press. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière plus concrète comment se passe une procédure bâillon et peut-être justement avec l'exemple de Street Press ou d'autres exemples sont les bienvenus aussi évidemment.
Alors, donc, on part du principe, un article vient d'être publié. Et puis, avant même la publication de l'article, vous aurez contacté l'entreprise ou la personne concernée par cet article pour que, voilà, c'est le respect du principe du contradictoire. Et en fait, à ce stade-là, avant même la publication de l'article, vous allez peut-être recevoir un courrier vous menaçant de poursuite si jamais vous publiez votre article en l'état et que vous ne modifiez pas certaines choses. Ça peut arriver après aussi la publication. Alors, un courrier de menace de poursuite ne veut pas dire que vous serez poursuivi, mais c'est déjà un signal d'alarme. Donc, vous avez publié votre article et ensuite, eh bien, la personne, l'entreprise, vous poursuit. Et pour ça, elle a à sa disposition plein de fondements, de qualifications qu'elle peut utiliser. Et la diffamation, c'est le fondement qui est le plus utilisé à travers le monde. Pourquoi ? Parce que dans de nombreux pays, à peu près 160, la diffamation est un délit pénal, c'est-à-dire que vous risquez une peine d'amende et ou une peine de prison. Donc dans certains pays, vous avez des journalistes qui aujourd'hui, en 2026, sont en prison pour avoir publié un article parce qu'on a considéré que leur travail, qu'il y avait de la diffamation. En France, c'est un délit un peu spécial, ça fait partie de la loi de la presse, et vous risquez pas de peine de prison, mais vous risquez une peine d'amende de 12 000 euros, et l'amende est plus élevée si ça concerne un élu, par exemple. Mais la diffamation, ce n'est pas la seule chose. Et là, vous parliez de Street Press. Street Press, actuellement, fait l'objet de 15 poursuites en diffamation de personnalités différentes. Ce n'est pas une personne qui a poursuivi 15 fois, c'est plusieurs personnes qui poursuivent Street Press. Et là, ce qui est difficile pour Street Press, c'est qu'ils doivent se battre avec 15 procédures qui ont lieu en même temps ou à peu près en même temps. Et ça, c'est pour le média, c'est extrêmement dur. C'est un coût important et pareil en termes de temps. Mais il n'y a pas que la diffamation, il y a le dénigrement. Par exemple, l'ONG Bloom, donc, qui est une association environnementale qui vise à protéger les océans, fait actuellement l'objet d'une procédure en dénigrement par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 12 comités régionaux et départementaux des pêches maritimes. Et l'ONG est poursuivie, on lui demande 646 000 euros de dommages et intérêts. Donc c'est un montant énorme hein, pour une association. Mais on a aussi violation du secret des affaires, atteinte à la présomption d'innocence, atteinte à la vie privée, faux, usage de faux. En fait, la créativité, elle ne manque pas et il y a vraiment plein de possibilités pour poursuivre un média, une association ou un lanceur d'alerte.
Merci Sophie Lemaître, merci Farah. Et tout de suite, on écoute Cinéma de Hila.
Tu m'impressionnes un tout petit peu. J'aime la façon dont tu souris quand il y a du vent dans tes cheveux. Je pensais que j'aimerais plus personne. Merde, je suis en train de tomber dedans. Pourquoi j'ai rougi quand tu m'écris? On m'a jamais plu autant. J'aime tes mélodies, j'aime tes textes, j'aime quand tu te livres à mort. Même si je sais que tes mots saignent coincés au fond de la gorge. Le genre d'histoire d'amour qu'on regarde que cinéma. Même si ça dure que 2 heures ensemble, moi ça me va. Je t'écris, tu soupires, je crois que c'est vraiment pas bon signe. Pourtant je me suis pas laissé faire, je te jure, j'ai suivi les consignes. Après l'autre fou du fond de la classe, je pensais que j'aimerais plus personne. Mais t'as frappé dans ma face comme si le soleil était trop fort. J'aime tes mélodies, j'aime tes textes, j'aime quand tu te livres à mort. Même si je sais que tes mots saignent coincés au fond de la gorge. Le genre d'histoire d'amour qu'on regarde que cinéma. Même si ça dure que 2 heures ensemble, moi ça me va. Le genre d'histoire d'amour qu'on regarde que cinéma. Même si ça dure que 2 heures ensemble, moi ça me va. Le genre d'histoire d'amour qu'on regarde que cinéma.
C'était Cinéma de Hila.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Sophie Lemaître et nous parlons des procédures Bayon contre la presse. Et c'est à ton tour, Farah.
Rebonsoir Sophie Lemaître. Donc Radio Campus Paris étant une radio étudiante, je me posais aussi la question de, eh bien, par rapport à ces procédures, est-ce qu'elles peuvent viser aussi des étudiants, notamment sur des cas de désobéissance civile, d'engagement écologique? Est-ce que lorsque on poste sur ces réseaux, on s'engage dans des manifestations en tant qu'étudiant, on a un risque d'être poursuivi par une procédure Bayon?
Oui, le risque est bien réel et on le voit malheureusement des personnes qui ont été poursuivies à la suite d'une pancarte, par exemple un élu du RN qui n'appréciait pas la pancarte le mentionnant lors d'une manifestation, ou bien là avec la loi Duplomb, beaucoup de personnes se sont manifestées et ont pu commenter, interpeller leurs députés et sénateurs, et à la suite en fait de ces interpellations sur les réseaux sociaux, des élus ont également déposé plainte. Donc c'est vrai que quand on s'exprime à l'heure actuelle, il faut vraiment faire attention à la manière dont on s'exprime. Alors je sais que parfois voilà, on peut être en colère, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on a l'impression de ne pas être entendu sur nos sujets, mais voilà, il faut faire preuve de mesure dans son expression. Et dans le livre, justement, à la fin, j'ai écrit des boîtes à outils, avec notamment une boîte à outils avec quelques conseils pour essayer de limiter le risque de poursuite Bayon, parce qu'il faut le savoir, c'est que le risque zéro n'existe pas, et qu'en fait, ces procédures-là, si une personne a décidé de vous poursuivre, elle le fera, peu importe, même si vous avez fait preuve de nuance, vous avez un super travail, votre article ou votre émission, là, elle est hyper sourcée. Si une personne veut poursuivre, elle vous poursuivra, puisque son objectif, ce n'est pas de gagner, son objectif, c'est de vous faire peur. Donc voilà, donc j'ai dans le livre, voilà, il y a des suggestions pour essayer de limiter le risque, mais c'est, oui, il faut avoir conscience que c'est possible.
Et puis bien sûr, quand on partager des outils oui, qui nous permettraient d'avoir un peu plus conscience de la manière dont on communique.
Oui, bah une première chose, c'est, comme je disais, c'est faire preuve de nuance. Donc, on évite les messages du type « telle personne est corrompue ». Voilà, on va plutôt dire « est soupçonné de corruption ». Ça, c'est important. C'est très important de vérifier les sources. Alors, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est autre chose, puisque là, on va commenter, etc. Mais si vous commentez un post, soyez le plus factuel possible, et surtout de ne pas partir dans des expressions comme ça, faire des accusations qui sont sans fondement, comme dire que quelqu'un est corrompu. La deuxième chose, donc, si vous écrivez un article, un rapport, quelque chose qui va par la suite être publié, c'est essentiel de vérifier vos sources, de les croiser, de aussi demander de contacter la personne ou l'organisation, l'entreprise qui est concernée par votre publication pour avoir le contradictoire et savoir quel est son point de vue. Ensuite, je pense que c'est important d'avoir en tête un peu une liste d'organisations, le nom d'organisation qu'on peut contacter en cas de poursuite, puisque comme je vous le disais, si on veut vous poursuivre, on vous poursuivra, on trouvera toujours une raison pour vous poursuivre. Donc, savoir vers qui se tourner, il y a beaucoup de collectifs qui peuvent vous accompagner, et si vous êtes journaliste freelance, par exemple, et que vous êtes seul, vous n'avez pas une rédaction, c'est important de connaître ces collectifs-là. Voilà, quand on est étudiant, mais je ne sais pas, peut-être on est au doctorat ou on est enseignant-chercheur, etc., ben peut-être que vous pourrez bénéficier de la protection fonctionnelle de l'université. Donc, si vous êtes attaqué, se renseigner auprès de l'université, quelles sont les protections dont vous pouvez bénéficier. Voilà, ça, c'est quelques idées. Et dans l'idéal, avoir un avocat en tête au cas où vous seriez poursuivi.
Et je parlais tout à l'heure de désobéissance civile. Il y a aussi le droit international qui la protège. D'un autre côté, il y a quand même aussi encore des outils juridiques qui nous protègent lorsqu'on veut désobéir, évidemment, lorsque c'est non violent.
Oui, alors là, les actions de désobéissance civile sont très différentes de s'exprimer publiquement à la suite d'un article ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Oui, les actions de désobéissance civile, si elles sont publiques sur un sujet d'intérêt public et non violente, elles sont protégées par le droit international, mais parce que ce sont des actions de désobéissance civile, elles se font en contradiction, en contrevenant à la loi. Et donc là, on a toujours cette idée d'une action qui peut paraître illégale au niveau de la loi, mais qui est protégée par le droit international. Et à l'heure actuelle, la lecture que font les États, dont la France, c'est que l'action de désobéissance civile est vue comme quelque chose d'illégal. Et donc, on a beaucoup de défenseurs de l'environnement qui sont poursuivis, qui font l'objet de poursuites pour avoir s'être introduit dans l'usine de BASF ou bien à la cimenterie de Lafarge. Je n'utiliserai pas comme ça.
C'est ce que l'État appelle. Excusez-moi, merci de me corriger.
Non, pas du tout. Mais moi, je trouve important, j'utilise le terme de défenseur de l'environnement face à cette rhétorique agressive que les politiques, les personnalités politiques utilisent d'éco-terroristes, d'ayatollah de l'écologie, de talibans verts, de Khmer verts. Et en utilisant cette rhétorique, l'idée derrière, c'est d'instiller dans l'esprit des citoyens qu'en fait, quand on est un défenseur de l'environnement, on est un dangereux criminel. Et donc, c'est normal, ça permet de légitimer la violence des forces de l'ordre et aussi de justifier les poursuites qui sont intentées.
Et aujourd'hui, comment s'organise cette riposte ?
Bien, il y a plusieurs actions. Au niveau européen, sur la question des poursuites bâillons, on a une directive européenne qui vise à lutter contre les poursuites bâillons. Elle doit être transposée en droit français d'ici début mai de cette année, donc ça va arriver très rapidement. Alors, elle a un certain nombre de limites. Je sais si on a le temps, on pourra revenir dessus, mais c'est déjà un premier pas.
C'est la dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Mais c'est plutôt juste pour savoir, très brièvement, comment s'organise la riposte aujourd'hui.
Donc, on a des collectifs aussi. Je pense, par exemple, pour la presse, à l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, qui recense les atteintes contre la liberté de la presse en France. Et le premier rapport sortira le 18 février. On a Riposte, qui est un fonds qui a été créé par le Fonds pour une presse libre et l'ONG britannique Media Defense, qui vise en fait à accompagner financièrement des médias qui font l'objet de poursuites bâillons. On a également l'Observatoire des libertés associatives qui recense en fait les entraves aux libertés associatives, parce qu'on a parlé des poursuites bâillons, mais il y a d'autres techniques juridiques qui existent pour réduire au silence. Et puis après, il y a ce que nous, on peut faire à titre individuel, et c'est vraiment important, et notre conversation ce soir y participe, c'est sensibiliser, informer sur ces attaques qui existent, qui sont peu connues, et par exemple, une chose que vous pouvez faire là ce soir, c'est après demain, parler autour de vous d'un des cas peut-être que j'ai mentionné, qui vous a interpellé, ou simplement dites, voilà, ce phénomène existe, saviez-vous qu'en France, on a des journalistes qui ont passé 80 heures en garde à vue pour avoir fait leur travail, qu'on a des associations qui perdent leurs subventions. Donc, parler de ça, c'est vraiment important. Et puis, abonnez-vous. Si vous pouvez, faites un don aux associations et aux médias indépendants.
Merci Sophie Lemaître pour ce moment de partage.
Merci Sophie Lemaître, merci Farah. Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM et tout de suite, c'est le Flash Info présenté par Raphaël.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
C'est une nouvelle onde de choc dans l'affaire Epstein. Un diplomate français apparaît dans les documents révélés par la justice américaine. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se dit effaré et indigné. Il a saisi le parquet et lancé une enquête administrative ainsi qu'une procédure disciplinaire. Le diplomate Fabrice Haïdan, actuellement en détachement hors du Quai d'Orsay, aurait échappé entre 2010 et 2017 des dizaines de mails, parfois familiers, avec Jeffrey Epstein. À ce stade, aucun élément ne l'associe directement au crime sexuel du financier américain, mais le ministre évoque des soupçons très graves qui pourraient concerner des violences sexuelles, des malversations financières et des tentatives d'influence. Et puis la tempête Niels continue de balayer le pays. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont placés en vigilance rouge pour des crues jugées importantes et durables sur la Garonne, avec des débordements attendus dans la nuit. Dans l'Aude, c'est le vent qui inquiète. Le département passera en vigilance rouge jeudi matin, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 140 km/h. Au total, orientale, plus d'une trentaine de départements restent en vigilance orange. Des perturbations sont attendues sur les routes, les rails et en mer. Prudence donc dans vos déplacements. Les Français ont brillé ce mercredi 11 février au JO d'hiver de Milan-Cortina. En biathlon, Julia Simon a décroché l'or sur l'épreuve individuelle, devançant sa compatriote Lou Jean Monod, médaillée d'argent en un doublé historique pour la délégation française. Sur les pistes de ski acrobatique, Perrine Laffont a ajouté une médaille de bronze en bosse à la sélection tricolore. Et dans la journée, les regards étaient tournés vers les compétitions de patinage et de ski de vitesse, avec plusieurs Français encore en lice pour de nouvelles finales ce soir. Une belle journée d'efforts et de médailles pour les Bleus au JO d'hiver. Deuxième report en deux jours pour la Française Sophie Adonneau. Son départ vers la Station Spatiale Internationale est désormais prévu à 11h15, heure de Paris. En cause des vents violents dans les couloirs d'ascension au-dessus du Cap Canaveral, en Floride. L'astronaute de l'Agence Spatiale Européenne doit décoller à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX aux côtés de deux Américains et d'un cosmonaute russe pour une mission de 9 mois dans l'espace. À 400 km au-dessus de la Terre, elle assistera à 16 levées et couchers de soleil par jour. Sophie Adonneau deviendra la deuxième Française à partir dans l'espace près de 30 ans après Claudie Henniré.
Merci Raphaël et tout de suite on écoute I Like It That de Fuertz sur Radio Campus Paris. C'était I Like It Like That de Kuckers.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Et je suis avec Francesca qui va nous parler de la lettre du gouvernement pour le réarmement démographique. Bonsoir Francesca.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Une lettre pour vos 29 ans. Cette année, si vous fêtez vos 29 ans, vous allez recevoir peut-être une lettre du gouvernement. Oui, une vraie lettre pour vous parler de fertilité. En France, le taux de natalité continue de baisser, le nombre de naissances est historiquement faible, le fameux seuil de renouvellement des générations, 2,1 enfants par femme, est loin derrière nous. Et face à ce que certains appellent un hiver démographique, l'État cherche des leviers. Cette initiative symbolique symbolique, fait partie de 16 mesures annoncées dans le plan de lutte contre l'infertilité. Informer les jeunes adultes au moment où, statistiquement, les projets de vie commencent à se structurer. Alors, que contient cette lettre ? Officiellement, ce n'est pas une injonction à faire des enfants, c'est un courrier d'information. On y parle santé reproductive, fertilité, baisse naturelle de la capacité à concevoir avec l'âge, parcours médicaux possibles en cas de difficulté. On évoque aussi l'autoconservation des ovocytes, autorisée en France par la loi bioéthique du 2 août 2021. L'objectif, mieux informer pour éviter les regrets tardifs. Car il y a un angle mort dans notre société moderne. On parle beaucoup de carrière, d'épanouissement, de liberté individuelle, mais on parle peu, trop peu de biologie. Or, la biologie, elle ne négocie pas. Le problème, évidemment, c'est que la natalité ne dépend pas uniquement d'un déficit d'information. Les enquêtes montrent que si les Français ont moins d'enfants, c'est d'abord pour des raisons économique et sociale. Coût du logement, instabilité professionnelle, difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle, manque de mode de garde, charge mentale toujours majoritaire portée par les femmes. Autrement dit, savoir qu'il faut faire un enfant plus tôt ne suffit pas à pouvoir le faire plus tôt. Cette lettre pose donc une question plus large. Jusqu'où l'État peut-il ou doit-il intervenir dans nos choix les plus intimes ? Informer, oui. Culpabiliser, non. Responsabiliser, peut-être, mais sans ignorer le contexte. Car la parentalité aujourd'hui n'est plus une évidence sociale automatique. C'est un choix réfléchi, parfois différé, parfois renoncé. Il y a aussi des parcours très personnels. Ceux qui veulent des enfants et n'y arrivent pas. Ceux qui hésitent, ceux qui n'en veulent pas, ceux qui attendent le bon moment, mais qui ne vient jamais. Finalement, cette lettre à 29 ans est peut-être moins un outil démographique qu'un signal politique. Vieillissement de la population, financement des retraites, équilibre des générations, le sujet dépasse largement la sphère privée. Reste une interrogation, une lettre peut-elle inverser une tendance, de fond ? Probablement pas à elle seule. Mais elle ouvre un débat et ce débat, lui, est nécessaire. Je pense qu'on ne pose pas la bonne question. Elle ne doit pas être comment faire plus d'enfants, mais dans quelle société a-t-on envie de les faire grandir ? Et ça, aucune lettre ne peut y répondre à notre place.
Eh bien, merci Francesca. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, dans le Zoom, nous recevons Emmanuelle Bompas, présidente de l'Association des femmes et des droits. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous allons parler de la sensibilisation et de l'information autour des violences faites aux femmes. Et c'est Betty qui va l'interviewer.
Bonjour Emmanuelle Bompas.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes juriste, oui, et militante pour le droit des femmes. Depuis 2020, vous êtes engagée bénévolement auprès de la Maison des Femmes de Saint-Denis, la première en France, oui, en tant que coordinatrice des permanences juridiques. En septembre 2023, vous fondez l'Association des Femmes et des Droits et prenez sa présidence.
Oui.
Votre structure, elle propose aux femmes en difficulté ou victimes de violences physiques et ou psychologiques, un accompagnement juridique personnalisé et sur le long terme. Ma première question déjà, ça va être de savoir un peu depuis quand vous militez pour le droit des femmes et qu'est-ce qui a déclenché cet engagement ?
Merci Betty, merci pour cette invitation. Je suis tombée dans le monde associatif et j'ai commencé à réellement à me poser des questions sur ce qu'était le droit des femmes en 2020, lorsque le Covid a sévi le monde et qu'on était tous cloîtrés chez nous. Je me demandais en tant que juriste qu'est-ce que je pouvais faire, quelle aide je pouvais apporter. Et c'est là où j'ai écrit à deux associations, la Fondation des Femmes et la Maison des Femmes. Et la Maison des Femmes m'a répondu en disant « si vous êtes capable de monter une permanence juridique, alors on vous laisse la diriger ». Et c'est à ce moment-là que j'ai basculé dans le monde associatif, dans le droit des femmes, et de voir comment est-ce qu'on pouvait les aider, surtout les femmes victimes de violences. Voilà.
Super. Et comment est née votre association des femmes et des droits ? Comment ça s'inscrit en fait dans ce parcours de militante bénévole au sein de la Maison des Femmes et aujourd'hui création d'une association et la présidence de cette association ?
En réalité, la Maison des Femmes de Saint-Denis, celle dans laquelle je coordonne la permanence juridique, c'est une activité parallèle. Mmh. Enfin, c'est une activité qu'on propose aux femmes qui sont victimes de violences dans cette structure-là. Et moi, j'habite dans le Val-d'Oise. Et dans le Val-d'Oise, base, il n'y avait pas, à part les grosses associations locales, il n'y avait pas d'associations qui proposaient un accompagnement sur mesure pour les femmes, simplement, du territoire valdoisien. Et donc, j'ai proposé, il y en avait, mais j'avais envie de le faire aussi parce que ça fonctionnait à Saint-Denis. J'avais envie de le faire dans le 95. Et j'habite Taverny et c'est la ville de Cergy qui nous a accueillis.
Super. Et en termes d'action, qu'est-ce que vous proposez dans votre association? Si vous pouvez un peu nous préciser les différentes actions qui sont proposées aux femmes victimes de violences en difficulté.
D'accord. Nous sommes situés donc à l'immeuble Ordinal à Cergy. On propose des permanences juridiques. Donc à destination des femmes sur plusieurs problématiques liées au droit pénal, au droit civil, au droit des étrangers, droit d'asile aussi. Et en fait, on les reçoit sur rendez-vous, on les écoute, on traite la demande et si jamais il y a besoin d'être mis en relation avec des avocats, on les oriente vers les avocats de notre structure.
Et comment elles vous sont orientées, ces femmes?
Alors, on est très bien référencés. Vraiment, la ville de Cergy nous a accueillis à bras ouverts. On a tout de suite été référencés dans l'annuaire de la ville. Tout de suite, été aussi accueillis par le centre Hubertine Auclair.
Je ne peux pas vous aider.
À Paris. Donc, c'est une grosse structure qui, en fait, a accepté de nous, avec le peu d'expérience qu'on avait de terrain, parce que c'est toujours, faut toujours faire ses preuves, on a très vite été répertoriés. Voilà. Et il faut dire qu'on a aussi bénéficié de la disparition d'une grosse association qu'il y avait dans le ACRJ qui s'appelait Du côté des femmes, qui a fait qu'en fait, on avait, je pense que la population avait besoin d'être accompagnée à ce niveau-là.
Et pour bien comprendre, du coup, vous n'accompagnez pas que des femmes habitantes de Cergy, mais bien autour, voire... Enfin, c'est quoi un peu l'amplitude
okay.
Du Val-d'Oise. Au niveau du département.
Au niveau du département.
Ok, très bien. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, donc, qui aura lieu le 8 mars prochain, qui a pour thématique cette année d'ailleurs « Droit, justice, action pour toutes ». Et toutes, je précise, qui est écrit partout en majuscules, les femmes et les filles, pour toutes les femmes et les filles. Vous organisez donc le samedi 21 mars de 14h à 17h à l'Office du tourisme de Cergy-Pontoise une conférence débat intitulée « Elles ont osé pousser la porte ». Dédiée à la parole, à la sensibilisation et à l'information autour des violences faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet événement, dans quoi il s'inscrit, qu'est-ce que peut attendre une personne qui vient assister à cet événement?
L'idée, alors c'est le premier gros événement pour nous, petite structure de 2 ans et demi. L'idée, c'était de continuer de parler de cette problématique des violences faites aux femmes, mais aussi de démontrer qu'il y a des acteurs sur le terrain qui se sont vraiment... se sont chargés de ces questions-là, de mettre en avant nos différents interlocuteurs, les avocats dont on a besoin quand on a besoin d'un accompagnement juridique, mais aussi des psychologues, des psychiatres, et c'est en fait d'avoir un regard croisé sur cette prise en charge des femmes victimes de violences. On aura aussi l'honneur d'avoir 2 bénéficiaires qui vont témoigner de leur parcours et de leur prise en charge au sein de l'association. Donc voilà, c'est... l'occasion de laisser parler tout ce beau monde.
Super. Et si je suis intéressée pour venir, comment je fais? Je dois m'inscrire quelque part?
Oui.
Ok. Comment je fais, du coup?
Sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn, vous avez la possibilité de... On a communiqué là-dessus. Il y a un flyer sur lequel on a un QR code et aussi la possibilité de s'inscrire par email sur l'adresse générique de l'association.
Super. Et quels sont vos projets outre cet événement en 2026 à l'Association des femmes et des droits? Les gros projets.
Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on va le dire. On a pour projet, en tout cas, de lancer la première version d'une application de vulgarisation du droit aussi. C'est dans la continuité de nos actions, de permettre, parce qu'aujourd'hui, on a tout un téléphone. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui nous appellent parfois parce qu'elles ne savent pas comment déposer plainte, comment s'y prendre. Et l'idée, c'est qu'elles aient à portée de main la réponse à leurs questions.
Une forme de facilitateur numérique, en fait.
De facilitateur numérique, aussi, on peut dire, de doctolib juridique, si vous voulez.
OK, pour prendre rendez-vous.
Rendez-vous avec des professionnels du droit, mais aussi pour être mis en pour avoir les informations directement. C'est-à-dire qu'on imagine un espèce de menu déroulant, je suis victime, je voudrais être mise en relation, et tout de suite, vous êtes guidée. C'est comme un pas à pas vers la question, en fait. On vous apporte une réponse à une question que vous vous êtes posée, quoi.
Très bien. on a un petit peu discuté avant, pour donner un peu les backstage à nos auditeurs et auditrices, on a un petit peu discuté avant cette interview, et vous m'avez dit qu'une de vos héroïnes, c'était l'écrivaine nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie.
Oui, exactement.
Et est-ce que déjà vous pouvez nous parler un peu d'elle, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas son travail, ses combats, et nous dire en quoi elle est une de vos héroïnes?
Alors moi, j'ai découvert Chimamanda Ngozi Adichie il y a quelques années. J'aime beaucoup lire, et donc c'est parce qu'elle écrit des livres que je l'ai découverte. Et puis j'ai vu que par ailleurs, elle était aussi très très engagée dans tout ce qui était féministe, pour tout ce qui est féministe. Dans le féminisme, pardon, et aussi un livre qu'elle a écrit sur le féminisme. Voilà. Et c'est pour ça que ça reste quelqu'un. Donc j'ai découvert le personnage, j'ai lu ce qu'elle faisait, j'ai écouté aussi ses différentes prises de parole.
Interview.
Et j'ai trouvé que c'est interview, et j'ai vu que c'était vraiment quelqu'un avec une profondeur remarquable. Voilà. Et donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle fait partie de ces héroïnes modernes, je trouve, qui ne demandent qu'à être suivies, écoutées. Je pense qu'elle est très connue aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais voilà, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Voilà.
Et dont les mots résonnent en vous, quoi.
Dont les mots résonnent en
vous. Ouais.
C'est ça, en moi. Et j'avais aussi pensé à elle ces derniers temps, parce qu'elle a récemment perdu un de ses bébés, puisqu'il avait 18 mois, un de ses garçons jumeaux, je crois, alors qu'elle repartait aux États-Unis, parce qu'elle vit entre le Nigeria et les États-Unis. Et c'est vraiment à la veille de son départ qu'elle s'est dit, il a la fièvre, je vais à l'hôpital. Et en fait, on lui a injecté une dose qu'il ne fallait pas, et elle a perdu son fils. Donc voilà, c'est aussi penser à elle à ce moment-là où on arrive au 8 mars, peut-être lui rendre hommage aussi.
Très bien. C'est un peu dur de rebondir après.
C'est vrai. Je vous l'accorde.
Après ce genre d'informations. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles dans votre association? Enfin, si on a envie de s'engager pour les droits des femmes, et qu'on habite Cergy ou ailleurs, et qu'on est un petit peu peut-être habilité sur les questions de droit, j'imagine. Enfin, vous cherchez plutôt des bénévoles qui connaissent un peu le droit, ou un petit peu tout type de personnes?
Droite, ce serait très bien, parce que du coup, on pourrait continuer d'alimenter le site internet avec les newsletters, par exemple. Mais aussi, on a besoin de community managers. Enfin, toutes les aides sont les bienvenues, en vrai. Et on n'a pas besoin d'habiter à Cergy pour aider une association de Cergy, parce qu'on est capable de faire des choses à distance.
C'est vrai.
Donc voilà. Et puis après, sur les actions de sensibilisation de terrain, c'est vrai qu'on a aussi besoin de bras, c'est sûr. C'est sûr.
Et si on veut vous chercher sur les... Enfin, on peut vous trouver où sur les réseaux? Je tape quoi? Des femmes et des droits?
Des femmes et des droits, okay. Sur Google.
Ok, parfait. Simple, efficace.
Simple, efficace.
Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Bomba, pour ce temps passé ensemble.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Eh bien, merci Emmanuel Bomba, merci Betty. Et tout de suite, on écoute Together One Time de Kassim. I want you to get together. I want you to put your hands. We'll be right back. C'était Together One Time de Kassim sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et pour terminer cette matinale, je suis avec Lia qui va nous parler des présidentielles en alexandrin. Tout un poème. Bonjour Lia.
C'est par un beau matin en ce royaume de France que sur les ondes publiques, on parle présidence. Depuis des mois déjà, le tournoi est lancé. Il n'y aura qu'un roi trônant à l'Élysée. Les prétendants nombreux peinent à s'accorder. Un concurrent s'annonce, mais on ignore qui c'est. L'arrogant chevalier, dénommé Jérôme Gage, croyant être à son prime, voudrait prétendre au siège. Le preux Glucksmann et lui sont du même blason, celui des socialistes et de la trahison. C'est d'universalisme et de laïcité que ce bon Jérôme Gage abreuve les sujets. À bien y regarder, son langage est le même que dans la Macronie et ses contrées lointaines. De même pour son vote au sujet du budget, l'austérité s'est haute, il n'a pas résisté. S'imaginant briguer un second quinquennat, c'est au gobelin Hollande de ressortir du bois. Comment départager ces losers de légende? Pourquoi pas des primaires? Mais Jérôme Gage en tremble. Car il n'apprécie guère de la gauche l'union, sauf en 2022 lors d'anciennes élections. Soutenu par la NUPES, il a conquis l'Essonne. Mais sa mémoire est courte, l'opportunisme énorme. Si pour 2027, Mélenchon Bardella, le socialiste refuse de devoir faire un choix. Mais avoir LFI comme une maladie, c'est de la peste brune qu'il crèvera la nuit. Le chevalier PS préparant la bataille, mais le reste des gauches est aussi en pagaille. Tondelier en armure et Clémentine Autain affûtent son épée avec François Ruffin. Fabien Roussel aussi, armé de sa faucille et puis de son marteau pour assommer Rousseau. C'est la série Déo, comme Nathalie Arthaud, comme Delphine Bateau et puis enfin Sego. Notez que cette lettre, rimante avec Ego, présage la défaite. Les prétendants sont trop. Pendant qu'il au guérois, c'est dans l'ombre tapis qu'une créature guette avec grand appétit. C'est une hydre à deux têtes, celle d'un homme et d'une femme. Ils ont les armoiries du parti à la flamme. Si vous coupez une tête à l'issue d'un procès, qu'elle est inéligible, la voilà remplacée. Et c'est ainsi que l'hydre, sans arrêt dupliquée, se lance dans la course direction l'Élysée. Traversant les contrées lointaines de Macronie, les plaines républicaines, l'hydre pond des petits. S'inspirant de leur mère, voulant lui ressembler, ils reprennent ses discours, comme Ciotti et Wauquiez. Trop occupés qu'ils sont à batailler entre eux, les chevaliers de gauche en oublient les enjeux. L'hydre ainsi les dépasse aux portes du palais, sous le regard navré d'une partie des Français. Pour gagner, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Les sujets du royaume se défont de leur chaîne. Troubadours, forgerons, paysans, musiciens, la lutte médiévale sera le genre humain.
Eh bien, merci Lia pour cette présidentielle en alexandrin. Ça rendrait la politique presque sympa avec ça. Et la matinale se termine. Merci à Sophie Lemaître et Farah pour l'interview. Merci à Betty pour le Zoom et merci bien sûr à Emmanuel Bompa. Merci à Raphaël pour le Flash Info. Merci à Francesca et Lia pour leurs chroniques respectives. À l'AREA, c'était Joé et Odéane pour la coordination. Demain, la matinale sera remplacée par Génération Désinformée sur le financement de la désinformation climatique. Ça se passe à la buvette de l'Académie du Climat. Venez nombreux, il y aura deux émissions et un concert. La matinale revient lundi, restez avec nous. Tout de suite, c'est le monde zygomatique. Passez une bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.